Donc, ce mouvement, comme j'ai dit, le mouvement des femmes est lié, plutôt, disons, a été lié pendant des années au code de la famille. Et donc, ce qui était intéressant pour nous et pour moi, donc je remercie Aouid de m'avoir donné cette opportunité de réfléchir sur cette la période post-réforme du code de la famille, et qui est liée aussi au Maroc, c'est pour des éléments de contexte, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte marocain, qui est liée à la transition, ce qu'on appelle chez nous la transition démocratique. C'est une transition qui a commencé il y a quelques années et qui est toujours là. On ne sait pas on va vers quoi, mais en tout cas, on dit qu'on est dans une transition démocratique. Donc, je voudrais partager donc avec vous cette réflexion qui fait que, dans ce contexte, la bataille de la réforme du code de la famille a donné beaucoup de pouvoir aux organisations appartenant au mouvement des femmes. Elle leur a donné de la force parce qu'elles ont été considérées par l'opinion publique, par les élites politiques, etc., comme des forces qui ont pu faire aboutir une demande sociale. Parmi les principales conséquences de cette réforme et de la période de transition démocratique, c'est que nous assistons au Maroc à une multiplication des organisations féministes, ce qui est quelque chose de positif, mais je vais revenir sur les enjeux et les défis. Donc, dans le passé, les principales organisations féministes appartenant à la première vague, ce que j'appelle la première vague, c'est les organisations qui ont mené la réforme, c'est-à-dire jusqu'à 2000-2004. Donc, ces organisations appartenant à la première vague n'existaient que dans les grandes villes au Maroc. Actuellement, le mouvement des femmes s'est diversifié, il couvre pratiquement toutes les régions du Maroc. Donc, c'est un point positif. Mais ce point positif implique aussi des menaces sur lesquelles on va revenir. Parmi les choses aussi, les conséquences de cette réforme, de ce processus dynamique de réforme, parce que ça n'a pas été facile, des milliers de femmes sont descendues dans les rues, il y a eu des batailles avec les islamistes, avec les conservateurs, etc. Parmi les conséquences de cette réforme, c'est qu'il y a eu un déversement de fonds, c'est-à-dire, en quelques mois, nous avons vu arriver des bailleurs de fonds du monde entier qui voulaient tous travailler sur la mise en œuvre de la réforme du Code de la famille. Donc, voilà des bailleurs de fonds qui sont arrivés presque tous avec un agenda bien, bien spécifique. Ensuite, parmi les conséquences, c'est que la réforme a fonctionné comme, disons, la fin d'un tabou. Et donc, nous avons assisté à l'émergence, début, d'un féminisme d'État. Un féminisme d'État, c'est-à-dire que le gouvernement marocain commence maintenant à parler comme le mouvement des droits des femmes, parler des femmes, de gender mainstreaming, gender budgeting, approche genre, etc. Donc, ce féminisme d'État aussi constitue aujourd'hui une menace, et je vais revenir là-dessus. Parmi aussi les effets de la transition démocratique au Maroc, qui est liée aussi, c'est l'émergence d'un grand phénomène que nous observons au Maroc et qui n'existe presque pas dans aucun pays arabe, c'est le partenariat État-société civile, qui est quelque chose qui est perçu comme étant très positif au Maroc, c'est-à-dire il est très positif que les organisations de la société civile travaillent en partenariat avec le gouvernement. Donc, tout cela fait que le discours sur les droits des femmes est devenu un peu galvaudé, et qui fait qu'il y a des menaces qui pèsent sur le mouvement féministe, puisqu'il y a une sorte de récupération du discours. Ce mouvement est devenu, comment on peut dire, un peu respectable, c'est-à-dire il est devenu quelque chose de respectable, et cela aussi implique de nouveaux enjeux. Alors, parmi ces enjeux, c'est un début de réflexion que je voudrais partager. C'est que dans le passé, je me rappelle une période, moi je suis comme Aïcha, ça fait 20 ans que je travaille, beaucoup plus longtemps que 20 ans, et que je me rappelle la première fois où j'ai assisté à un forum international, j'étais toute jeune, j'étais très intimidée, comme l'a dit une personne avant. J'avais l'impression que tout le monde savait tout et que tout le monde se connaissait, etc., etc. Et je m'étais jurée à ce moment-là qu'arrivé à un certain âge, ça y est, je n'allais plus assister à ces forums. Or, actuellement, le problème, c'est qu'on se sent toujours jeune. Hein. On ne se rend pas compte que les années passent. Je me suis rendu compte que je ne suis plus très jeune lorsque je n'ai plus pu acheter les robes pour mes filles, parce qu'elles trouvaient que c'était démodé, Et lorsque finalement, il y a des jeunes femmes qui sont arrivées à mon association, et ça m'a donné énormément la façon de voir comment elles réfléchissent, comment elles travaillent, comment elles réagissent. Ça m'a donné conscience de ce que je suis actuellement, de ma génération. Donc, je voulais dire que les nouveaux enjeux pour le mouvement et je dirais les menaces sont de plusieurs types. Et donc, c'est une. Je voudrais donner quelques idées. Il y a 20 ans, je me rappelle, on discutait avec un responsable politique, avec une amie du mouvement, et il nous a craché dessus, parce que nous demandions l'égalité dans la famille. Aujourd'hui, c'est impensable. Je ne suis pas en train de dire que je regrette qu'on ne nous crache plus dessus, mais je veux dire que les choses ont tellement changé qu'aujourd'hui, appartenir à une organisation féministe est devenu quelque chose de très bien vu. Et donc, cela implique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'on peut adhérer à une association de femmes, briguer un mandat de responsabilité de leader dans ce mouvement des femmes, peut ouvrir les portes, certaines portes. Alors, je dirais, par exemple, la médiatisation, parce que la presse, les médias au Maroc sont très, très curieux de ce qui se passe dans le mouvement, des demandes du mouvement. Donc, on peut passer à la télévision, on peut passer à la radio, on peut avoir sa photo dans les journaux, et tout cela implique un certain nombre d'enjeux. Et il y a aussi un autre enjeu qui est en train d'apparaître, c'est la carrière professionnelle. Compte tenu des déversements de fonds au Maroc, compte tenu de la multiplication de projets, avec le gouvernement, entre bailleurs de fonds et gouvernement, ce qu'on appelle le partenariat triangulaire, bailleurs de fonds, mouvement des femmes et gouvernement, il y a maintenant des possibilités de développement de carrière au sein du gouvernement. Et on l'a vu parce que le gouvernement a besoin d'experts, il a besoin d'expertise qu'il ne possède pas. Donc il fait de plus en plus appel. Il y a donc cet appel, disons, des cadres féministes pour intégrer le gouvernement. C'est un risque. Je ne dis pas que c'est un phénomène massif, pas du tout. Mais voilà un autre risque. L'autre risque, c'est le développement des carrières au sein des organisations internationales qui, je suis désolée, qui piquent les cadres des organisations parce qu'ils n'ont pas aussi l'expertise. Le Maroc, disons, c'est un pays jeune en matière de démocratie, de droits des femmes. Donc l'expertise, le savoir-faire n'est pas toujours disponible. Donc c'est aussi une menace qui guette le mouvement des femmes. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a aussi des enjeux qui sont liés à l'argent. Donc, c'est des choses que nous connaissons. C'est aussi une menace qui guette le mouvement. Toutes ces menaces s'inscrivent dans un contexte où les organisations féministes sont très, très sollicitées compte tenu de la multiplication des projets, compte tenu de l'agenda gouvernemental, plusieurs chantiers qui sont ouverts, les bailleurs de fonds qui sont là, les experts qui viennent, les chercheurs qui font des thèses sur le code de la famille au Maroc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il me semble que parmi les grands problèmes que nous confrontons, c'est le manque de temps. Le manque de temps, on n'arrête pas de courir d'une activité à l'autre. Et nous sommes, beaucoup d'organisations sont devenues au service des projets, au service du partenariat avec le gouvernement ou avec les bailleurs de fonds, au lieu que ce soit le contraire. Donc nous sommes dans un processus qui est menaçant, un début de processus qui est menaçant, qui est ce qu'on appelle angélisation des ONG, mais beaucoup plus un manque de temps et une compétition. La compétition entre les différentes organisations sur le leadership, parce que c'est un mouvement qui commence à avoir beaucoup de pouvoir politique, beaucoup de présence sociale, qui est reconnu. Donc il y a énormément d'enjeux à ce niveau-là, de pouvoir, de compétition entre les organisations de femmes. Donc ce manque de temps qui fait que les espaces d'échange, les espaces de débat, les espaces de réflexion critique sur cette période post-réforme. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique pour un mouvement des femmes de gagner une grande bataille? C'est un grand acquis, mais aussi qui amène beaucoup de menaces pour le mouvement. Et je crois que nous n'avons pas, depuis la réforme a eu lieu en 2004, nous sommes en 2008, on n'a pas eu le temps ni les espaces pour discuter entre nous de ce que cela implique et quelles sont les perspectives. Et bien sûr, lorsqu'on parle des débats intergénérationnels, comment voulez-vous que ces organisations aient le temps de laisser le temps et l'espace pour former les jeunes, pour discuter, pour partager les expériences, partager la mémoire la mémoire des organisations de la première vague, la mémoire des organisations féministes que nous appelons, ce que j'appelle la mémoire des grandes sœurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a donc des menaces réelles qui pèsent, qui guettent, mais aussi il y a des capacités, il y a, disons, des potentialités du mouvement à confronter ces menaces. Et je donnerai pour terminer une petite expérience. Nous avons commencé, je crois, il y a 2 ans, il y a des amis du Maroc peuvent me corriger, à essayer de mettre en place, non pas un forum, mais ce que nous avons appelé les assises du mouvement des femmes au Maroc. Et c'est ça qui est important. Moi, j'écoutais Aïcha avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de mettre en place un espace de débat en dehors des projets, en dehors de l'agenda, disons, précis, en dehors des stratégies précises. Des espaces où il n'y a pas d'enjeu, disons, c'est moi qui vais faire, c'est moi la première, c'est moi qui suis la plus forte, etc. Et donc d'avoir ces espaces en dehors de l'agenda politique et des activités, des stratégies, des associations pour débattre. Donc nous avons commencé ce processus. Malheureusement, il a des difficultés, et je suppose que c'est normal, compte tenu que maintenant le mouvement n'est plus composé seulement de quelques associations les plus anciennes, mais d'une grande diversité d'associations qui sont dans toutes les régions du Maroc. Et donc, les choses pour organiser ces débats, ça devient beaucoup plus difficile. Mais je suis confiante pour l'avenir, parce que je crois vraiment, comme j'ai dit, pour mon âge, parfois je me dis, si nous avons des difficultés à avoir des jeunes, c'est parce que nous, de notre génération, peut-être nous constituons un blocage. Et je dirais la même chose. Je pense que les organisations, les grandes sœurs, les organisations de la première vague à laquelle j'appartiens, peut-être constituent aujourd'hui un obstacle, à cette réflexion. Et donc, je pense que l'espoir, c'est les nouvelles organisations, les jeunes organisations féministes qui se trouvent dans toutes les petites régions et les petites villes du Maroc. Voilà, merci beaucoup.